Bonjour à toutes et à tous, excusez-nous pour le retard. Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 pour Comment faut-il que je vous le dise, tous les 15 jours. Une émission qui vous parle de poésie, de chat, de météo, de rythme, de Loire, de musique, d'absurde, de Saône-et-Loire, d'injustice, de froid, de Robin des Bois, de Jacques Demy, etc. et tralala. Nous sommes une fine équipe constituée de Julie.
Bonsoir.
Greg.
Bonsoir.
Anita.
Salut.
Et moi-même, Delphine. Pour commencer, entre philosophie et poésie, si je ne me suis pourtant pas levé du pied gauche ce matin, mais...
Ne masticotez pas les bigoudis, hein. Ne me trébuchez pas la moelle, s'il vous plaît. Ne me courez pas inopinément sur le haricot, j'ai dit. Et ne me perturbez pas les zygomatiques une fois pour toutes. Et j'insiste, ne me passez pas le râteau dans le sens contraire des poils, sinon ça va chauffer. Je lis de la poésie. Et quand on lit de la poésie, il faut un silence total. Un silence tel que le son du poème soit comme des pattes de mouette sur le sable. Quand je lis de la poésie, je goûte la langue française dans ma bouche de 10 heures, comme un vin. Un grand vin. Le plus vieux et le plus délectable des vins coule du fait de la langue française dans ma bouche. Jusqu'à ce que je sois ivre des mots et des phrases. Vous me direz, toi Ahmed le musulman, qu'est-ce que tu connais au vin ? Tu n'en bois pas du vin, c'est interdit par ta religion le vin. Bande de petits malins, Ahmed va vous clouer le bec. Premièrement, est-ce que tout un chacun qui s'appelle Ahmed est musulman ? Est-ce que tout un chacun qui s'appelle Dubois est catholique ? La religion n'est pas le nom qu'on porte, encore moins la tête qu'on a. Elle est une croyance dans l'intérieur de soi, complètement privée. Et donc, elle ne se voit pas du dehors, et toc, petit malin. Deuxièmement, est-ce que tout un chacun qui est musulman ignore le vin ? Est-ce que tout un chacun qui est chrétien ignore le plaisir du sexe ? Je vous demande un peu. La religion, si on a la croyance qui ne se voit pas du dehors, ce n'est pas d'ignorer ce qui est interdit. Si vous ne le connaissez pas, ce qui est interdit, comment vous pouvez comprendre pourquoi c'est interdit ? Et obéir sans savoir pourquoi vous transforme en un âne aux deux considérables oreilles. Et toc, petit malin ! Et troisièmement, est-ce que tout un chacun qui ne boit pas du vin ignore ce que c'est que le vin ? Est-ce que tout un chacun qui n'est jamais allé en Amérique ignore ce que c'est que l'Amérique ? Si on ne connaissait pas ce qu'on voit, on ne connaîtrait pas grand-chose vu le côté restreint de notre œil. Et toc encore, petit malin ! Rien que le mot « vin », tiens, ça dit pas mal de choses sur le vin. Et quand le mot « vin » entre dans la poésie, c'est presque comme si on buvait selon l'unique force des mots. Écoutez-moi ça. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. C'est de Charles Baudelaire. Il s'y connaissait dans la transmission du vin par l'unique force des mots, Charles Baudelaire. Je ne m'en lasse pas de Charles Baudelaire. Alors faites silence, petit malin. Cessez de me calamistrer l'occiput. Je lis de la poésie, je lis le vin, les mots du vin sur la langue, définitivement. C'est ainsi qu'à travers l'humanité frivole, le vin roule de l'or, éblouissant pactole. Par le gosier de l'homme, il chante ses exploits, et règne par ses dons ainsi que les vrais rois. Pour noyer la rancœur et bercer l'indolence, de tous ces vieux maudits qui meurent en silence, Dieu touché du remords avait fait le sommeil. L'homme ajouta le vin, fit sacrer le soleil. Le premier qui prétend que ça n'est pas beau, gare à lui. J'en connais par-ci, par-là, qui disent que des goûts et des couleurs, bof, il ne faut pas discuter, chacun son opinion, tout est relatif en ce bas monde. Halte là, ce qui est beau, on ne discute pas, on goûte. On goûte le vin sur la langue poétique du vin sur la langue. Compris ? Et c'est mon dernier avertissement. Ne me tintanabulez pas les rotules, je vous ai à l'œil. C'était Ahmed Philosophe, la poésie d'Alain Badiou.
Merci Delphine. Alors ce soir, j'avais envie de mettre en avant une revue qui s'appelle la Revue Bâtarde et qui nous vient de Belgique. Revue créée par le collectif In de Keuken. Alors c'est un collectif qui réunit des artistes, des graphistes, des plasticiens, des dessinateurs, des performeurs et des poètes. Ils ont fait jusqu'à présent fait 4 revues, donc qui sortent à raison d'une fois par an, avec à chaque fois un thème central et un appel à contribution. Donc le premier numéro, c'était la démocratie, donc sorti en 2012. Le numéro 2 était sur le bonheur en 2013. Puis le numéro 3, c'était sur la cellule, 2016. Et cette année, donc le thème choisi a été le thème du compromis, qui est un très très beau thème, je trouvais, qui avait sa place ce soir dans cette émission. Voilà. Et puis au fur et à mesure donc du déroulé de l'émission, je vous parlerai de ces textes-là, des contributeurs donc qui les ont réalisés. Voilà, c'est une revue que vous pouvez trouver chez des libraires, voilà, qui ont un attachement particulier à la micro-édition, à l'image. Mais vous pouvez la retrouver aussi sur le site www.indekeuken.org. Indekeuken, ça s'écrit I-N-D-E-K-E-U-K-E-N. Voilà. Alors j'ai envie de commencer avec ce petit texte qui est justement une recherche poétique de ce que pourrait être le mot compromis. Texte de Sylvain Hartmann et Juliette Jacquemin. C'est par le compromis qu'on picore mes rêves chéris. Le compromis, c'est le moi qu'on mord, qu'on pille, moi qu'on corrompt, moi qu'on pourrit. Le compromis, le moi omis. Mes espoirs aspirés, mes rêves ravis. Le compromis comprime mon âme. Pourquoi ? Pour qui ? Mais à l'abri, dans l'anti-compromise omission d'autrui, mes désirs radicaux procrastinent, dépérissent et me promettent à l'hostile isolement. Le salut, alors, par le compromis, micro-pont, mis entre deux ennemis, le nous concret. Nous, concrets. C'est par le compromis qu'on prit corps mes rêves chéris.
Pourquoi pas?
Non. Pour rentrer dans le détail de la première étape, la mise à plat et ça consiste à lister ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est doué. Et nos compétences, ce qu'on a aimé faire, jusqu'à aujourd'hui dans sa vie professionnelle. On peut aussi exprimer ce qu'on aime faire dans la vie en général. Ensuite, après cette mise à plat, on peut imaginer la situation idéale. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de travailler pour une entreprise ? Quel type d'entreprise ? Une petite entreprise ? Une moyenne entreprise ? Un grand groupe ? Ou alors, est-ce qu'on préfère monter sa boîte ou travailler en indépendant ? Voilà, sa situation idéale. Bien sûr, c'est important d'adapter la situation idéale à la réalité. Donc pour ça, on peut commencer à enquêter, à chercher des informations sur des sites internet, en interrogeant des personnes qui travaillent dans le secteur dans lequel on voudrait s'orienter.
Des fois oui, puis des fois non, pas du tout.
Une fois qu'on a identifié ce qui nous manquait pour y arriver, donc ça peut être une formation ou juste reconstruire sa présentation pour s'adapter à ce domaine qui nous est nouveau. Arrive la dernière étape, la cinquième étape où on va écrire, son plan d'action.
Alors, je trouve un travail. Et depuis que je travaille, on me donne le choix de ce que je veux manger. J'ai commencé par des sandwichs, jambon tomate, pain bagna, puis saumon cru. Putain, je peux manger du saumon tous les jours, que je me suis dit. Même qu'une larme a coulé dans ma peau, invisible. Derrière un air de normalité exquise. puis le saumon a fini par me dégoûter. Saleté de bestiole qui veut me bousiller les entrailles pour remonter vers le créateur, sans oublier de m'emporter avec. Je suis donc passé aux salades. Je pouvais encore choisir thon, œuf, semoule, coleslaw, pois chiche, endives patates, olives feta et raisins secs. Et tout ça, c'était normal. J'ai ajouté une part de quiche, noix, roquefort, ça restait dans le budget, dans le ticket. Alors j'ai essayé de pas m'en plaindre. J'ai pris la tangente en automne avec des plats du jour. Veau, bœuf, lotte, porc, poulet, dinde, légumes. Et je voulais des desserts avec, des boissons avec. Et les couverts serviettes, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas le bout de pain. Je vous en débarrasse, quoi? La barquette? Quoi? Vous me la servez, elle est trop pleine? Vous espérez que j'ai pas assez d'appétit? Je vais fermer les yeux là-dessus. Les lèvres pincées, l'œil humide. Et l'appétit? Petit appétit. Petit à petit, gros appétit. Insatiable, associable. Au mets proposé. Boulangerie, traiteur, pâtissier et autres sushis, sashimi, salade de poulpe, soupe miso, consommable, consommé, sac vidé en oriflamme. Festin passif de la normalité. Ces mets que je n'avais que mieux appréciés que lorsque, dans la plus grande veine, et par un proche passé, trouvé dans des poubelles éventrées, mon ventre affamé, brisant les grillages barbelés, éveillé à l'écho lointain de la normalité, et cette sentence, trop souvent captée. T'as mangé? Mangé? Mangez! Mangeons, mangez, mangez, mange, mange, mangez, mangerai, mangerai. Tout ça, des déclinaisons normales, substances subsistantes d'un travail déshumanisé.
Que j'ai la tête d'un chat et chat chat chat. Et là je renie cette violence imposée. Oser, je partirai jamais au grand jamais. Mais je te dis qu'exister, c'est tout le temps résister. Et t'es sans doute en train de penser. Je te fais de la pub, c'est comme des coups de matraque sur nous toutes. Toutes consommatrices, combien ça coûte? Ils disent le prix du silence, je dirais que vomir a un sens. Et le patriarcat nous donne du chocolat. Ça finit dans la cuvette, bah voilà.
J'en ai marre de faire la fête dans ce monde de chien. Je prends un cachet pour la tête pour faire du bien.
Voir dehors, y'a tout le monde en noir, c'est la mode à Paris, bande de poires. Y'a avec des instants de liberté où on a fait que se baffrer. Et je t'enchaîne par des mots libertins. Tu veux quoi que je t'appelle mon coquin? Liberté, pas égalité, reste le troisième et je les appelle. Pacifique, l'image de la rue pas spécifique, à base de couleurs, de mots et d'images. Et oui, certainement, on a la rage.
Ils me l'ont dit, à la réunion, ils me l'ont dit. Ils étaient tous d'accord, les chiens. Ils m'ont dit, rhubarbe, permets-nous d'être familiers. Ici, c'est la bonne franquette. C'est convivial, on est entre copains. Et on fait des bonnes bouffes. On peut te le dire, tu pètes plus haut que ton cul. Même la secrétaire de séance l'a répété en riant. Rhubarbe, tu pètes plus haut que ton cul, tel quel.
Ça ne fait pas si haut que ça.
Qui va là? Ah, c'est toi, Ahmed. Tu m'espionnais?
Je songeais à ton malheur, je cherchais le moyen de laver ton honneur, de sécher tes pleurs, de rendre justice à ta fureur, que tu aies enfin ton heure, que contre toute la réunion des calomniateurs, contre l'inepte secréteur, tu reviennes bientôt en vainqueur.
Quand la secrétaire et tous les beurs, et même le directeur du CPQ-teur, les sarges les corneilles te disent en chœur que tu pètes plus haut que ton cul, ce n'est pas l'heure de garder sa bonne humeur.
La mesure.
Quoi, la mesure?
Tu leur as expliqué tes plans, n'est-ce pas? Tu leur as dit qu'il était temps de voir grand, d'implanter à Sarges-les-Corneilles toute une culture multiraciale des communautés qui trouvent leurs racines. Tu leur as dit qu'il fallait une vision éthique, esthétique et élastique. Tu leur as dit que les droits de l'homme devaient trouver dans l'action associative, municipale, familiale et coloniale un nouveau souffle, frais balayant les miasmes de la bureaucratie sargeoise, cornélienne, sur toutes les coutures.
On dirait que tu étais à la Réunion. C'est exactement ce que j'ai dit, dans un style à la fois coulant et fruité.
Ton fameux style camembert. Et ils ont dit que tu voyais trop grand, que l'éthique était ton tic, vu qu'il n'y avait pas les crédits, et finalement que tu pétais plus haut que ton cul, et tu es sorti en larmes.
C'est dur. C'est très dur. Se faire accuser de grandeur, d'excès, c'est dur. Je suis pour la modestie, moi. La démocratie doit être au ras du terrain, tout près des gens, avec des idées très concrètes, des idées toutes petites, rien qui dépasse. L'éthique, c'est ça. Ne jamais dépasser la masse, pas même d'un poil. Penser comme le crétin modeste du coin, penser petit, tout petit, encore plus petit. Parce que si tu penses en avant, ou trop loin, ou trop grand, crac, tu es totalitaire. Quand ils m'ont dit « Rhubarbe, tu pètes plus haut que ton cul », je me suis dit « Mon vieux, ils te disent que tu es totalitaire ». C'est ça qui m'a mis si sec la larme à l'œil.
Je te le dis, la mesure exacte. Tu l'as vu ce cul dont il parle?
Écoute, c'est pas si facile de voir son derrière.
On va mesurer. C'est bien ce que je pensais. Ce n'est pas très haut au-dessus du niveau de la mer.
Et ils ont dit, plus haut! Tu peux être plus haut que ton cul.
D'accord. Mais ce qui est plus grand que ce qui est petit peut rester petit, non?
Un petit peu plus haut que mon cul, ça reste pas très haut au-dessus du niveau de la mer. Ça reste modeste, ça reste éthique, démocratique, tu crois?
Aucun doute. Mais si tu multiplies par 10 000 un corpuscule tout petit, un électron ou même un atome, ça reste encore petit. C'est comme si tu divises par 10 000 un tas gigantesque, une galaxie ou même le soleil, ça reste très grand. Le grand petitement divisé reste grand, et s'il est très grand, même grandement divisé, il reste grand. Et de même, le petit petitement multiplié reste petit. Mais s'il est vraiment petit, même grandement multiplié, il reste petit.
Mmh. Et qu'est-ce que tu crois, que mon cul est suffisamment bas, rapport au niveau de la mer, pour que même si je pète bien plus haut, ça soit encore bas?
Je vais reprendre les mesures. Il n'y a aucun doute, aussi haut que tu pètes, même très haut au-dessus de ton cul, ça n'ira jamais très loin, rapport au niveau de la mer. Le risque de vraie grandeur, mon cher Rhubarbe, c'est nul.
Ah, formidable! Je les tiens, les crapules. Totalitaire. Rhubarbe? Jamais! Aura des pâquerettes, tout près de la masse? L'idée concrète toute petite.
Tu pètes quasiment au niveau zéro, altitude négligeable. Le Mont Blanc est grand, mais tout ce que tu racontes est petit. Ils te l'ont prouvé eux-mêmes avec leur comparaison vulgaire.
Ouais, tu as raison. Il faut tout mesurer. Tout, tout, tout.
Même les toutous, La mesure, c'est ça qui fait l'éthique et l'esthétique et l'élastique.
Ouais, je retourne à la Réunion, je vais leur péter dans les jambes, tiens.
Vas-y, carrément! À toi, maître étalon, es-tu grand, es-tu petit, ni l'un ni l'autre. Si c'est toi qui mesures le grand et le petit, ni l'un ni l'autre. Ou tous les deux, grand le bâton, si c'est un atome qui les mesure, minuscule le bâton. Si c'est le soleil auquel on le compare, enfin, cher Rhubarbe, le vrai petit Rhubarbe a séché les larmes du faux grand. C'était Ahmed Philosophe, le grand et le petit.
Nuit orageuse sur le toit et sous le toit, sommeil agité, vent d'ouest force 4 à 5, rafale force 102.2, extrêmement matinale, expérience moins une heure, la lumière est blanche, trop tard pour la bleue.
Vous êtes bien sûr 102.2, comment faut-il que je vous le dise?
Comment faut-il que je vous le dise?
Comment faut-il qu'on te le dise?
Comment faut-il le dire?
Toute la journée derrière moi et toute la nuit sur le dos. Dans la chaleur ou dans le froid, il me pousse sur les tréteaux. Leur gala, leur récital, j'en ai vraiment plein le dos. Et à tous ces bourreaux, je souhaite le supplice du pal. Et puis mon impresario, il s'enrichit sur mon dos. Non coco, faut le faire, c'est pour minuterie. Les filles qui jettent sur moi, celles qui escaladent le toit, celles qui disent moi et moi, oh comme je m'en mords le chinois. Mais le pire, c'est que mon parolier, non seulement il est fou allié, mais il voudrait me faire chanter que des histoires d'obsédés. Je ne dors plus, je ne mange plus, j'ai maigri, je suis aigri. Je suis malade, je fais plus pipi ni caca, je suis pas vieux, mais j'en peux plus.
Pas se taper la tête contre les murs comme ce pauvre Jacques Dutronc et son idole là. Revenons sur le thème du compromis, donc avec un texte de Mathieu Biettelot, toujours issu de la revue Bâtard numéro 4. Et ce texte, pour moi, fait un petit peu figure d'édito dans la revue. La tension sans repos. C'est une belle et difficile question que celle des compromis. Pour le moins, elle travaille en permanence les insoumis et les insomniaques. De surcroît, elle ne s'oppose qu'en paradoxe. Elle entrecroise les positions existentielles et politiques. Avoir la réalité en face, telle qu'elle déstoie, telle qu'elle restreint, telle qu'elle enclôt, telle qu'elle étouffe, comment s'en contenter sans se compter d'histoire ? Comment se satisfaire de cet état des choses où le possible se trouve aussi limité ? Assoiffés d'azur, l'insoumis et l'insomniaque sont faits pour être insatisfaits. Ils ne se résolvent pas à l'ordre des choses, car ils savent qu'à se résoudre, on se résigne vite et on finit par abdiquer. Ils ne négocient pas avec la réalité, ils ne composent pas avec elle. Ce monde, tel qu'il est fait, n'est pas supportable, découvre le Caligula de Camus, dans un accès non de folie, mais de raison. Et il se sent tout d'un coup un besoin d'impossible. De la lune ou de quelque chose de dément qui ne soit pas de ce monde. Pour ne jamais s'accommoder du médiocre, l'insoumis, l'insomniaque ou le souverain exige infatigablement, l'impossible qu'on appelle la poésie, la vraie vie, le communisme ou l'amour fou. Exigence inlassable et insatiable qui bouge sans cesse les habitudes, empêche de s'endormir dans une position confortable, refuse de se conforter dans le moelleux de l'indolence. De prime abord, l'insoumis ne supporte pas les compromis, l'être intègre non plus. Ils ne seront nombreux à déplorer que le monde actuel s'affaisse sous trop de mollesse, qu'il navre et se gâte à trop tergiverser et transiger, qu'il s'écrase par manque de radicalité, qu'il se fourvoie par excès de compromission. Être radical signifie moins se montrer intransigeant et borné qu'aller à la racine des choses, agir décisivement sur les causes profondes, aller jusqu'au bout de chacune des conséquences impliquées par un choix.
Tu m'emmerdes ! Oui, je serais bien content ! Parce que toi, tous les jours, tu me casses les couilles avec ta branlette ! Tu m'emmerdes ! Tu m'emmerdes ! Putain, on peut plus être tranquille dans cette maison !
Et dans ce vieux débat des moyens et des fins, il y a une tension dialectique à élaborer, à établir et à maintenir entre la posture éthique d'un Camus et la position cynique d'un Staline. Camus, nobélisé et bien assagi depuis Caligula, préférait sa mère à la justice et exigeait des moyens aussi, voire plus purs que la fin, seul apte à la justifier et à autoriser une prise de parti. Staline, pas besoin d'en faire un tableau noir, considérait que la fin justifie les moyens, tous les moyens, même ceux qui ont décimé l'ambition révolutionnaire. Une tension entre des exigences contradictoires, des excès qui se contredisent, s'interpelle sans cesse, ne se laisse jamais en paix, de manière à proscrire tout enfermement ou endormissement dogmatique. Une passion, voire une fascination de l'excès, mais sans dévotion ni fanatisme. Une tension, pas un compromis. Il en va de la différence entre une discorde fertile et un entre-deux frustrant, entre une excitation réciproque et une limitation bilatérale, entre une ébullition permanente et une tiédeur soporifique. Un va-et-vient entre des rigueurs réaffirmées contre l'assoupissement et des assouplissements nécessaires à la manœuvre du réel. Un principe moteur et mobile, ambigu et gai. Un principe, pas une prison. Une agilité de navigation en tirant des bords et des débordements, qui tient la barre et sait insérer des rondelles entre les boulons quand il le faut. Cela donne de la souplesse et de la fermeté. Cela permet de résister aux chocs, d'arpenter les aspérités du terrain. L'insoumis et l'insomniaque travaillent le réel au corps, parce qu'ils ne le supportent pas, mais savent qu'ils ne peuvent s'en détourner ou l'évacuer. Tout est réel. Tout ce qui est réel nous rebelle, tout ce qui est rebelle est réel.
Alors dans cette émission, après avoir commencé à parler du travail, puis du compromis qui peuvent bien se lier, je vous propose d'aborder un autre point, celui de faire le vide. Le vide qu'on conçoit de plein de manières différentes, le vide, l'absence, le vide, le rien, le vide, l'entre-deux, le vide, le flottement, et puis donc ça se passera en trois petites séquences. Faites le vide. Eh bien, commençons par le vide. Je me libère du cube blanc et de sa condition. J'allège le cerveau après l'enivrement de la haute voltige plastico-sympathique. Le filtre tombe. Sa porosité se transforme pour sortir, oser et se dévoiler. Dénichons la perle. Qu'elle roule d'huître en huître, glisse de bulle en balle en bille, jusqu'aux circonvolutions, tourbillon d'attente, elle s'entrechoque avec pierres, gouttes et flammes. Le mica se forme. Un granit souple, un marbre aux courbes sensuelles, à la force dure et tendre. Ses couleurs multiples et l'énergie de ses veines en fond, se fixe, brute et construite. Échappée neurolinguistique, échaudée, s'enfuyant de l'artistique culturalisé, en son creuset de naissance, la distance en est faible. La décantation a encore lieu pour montrer que la racine d'acanthe est là. Inlassablement ensablé, mes yeux s'ébattent des micas brillants. La corrosion granitique enlève la pellicule opaque qui hivernait. Écoulement d'un mois, glissement de terrain, sans séisme violent. Simplement, le paysage change, évolue, s'érode et se concrétise simultanément. Écoute les anges, elles dansent pour toi. Suis les dérives oblongues, rêves fantasques, leurs pas ne s'écrivent, lent déplacement vers le palpable agréable. De mouche à moustique, il n'y a qu'une dorure d'aile, celle qui reflètera le brillant quand tu grimperas le long d'un rayon. Enjambée magique, volée flamboyante, plus le chemin de l'astre est long, plus son irradiation, sa contamination se propage et s'infiltre en nous. belle douceur, belle nuit, douce lueur, tendres odeurs, souffle de peur, rêves en fuite, rêves enfouis, rêves endormis, le noir s'éteint, le jour de nouveau s'éveille, moi aussi.
L'amour se porte autour du cou, le cœur est fou. Quatre bras serrés qui s'enchaînent, l'âme sereine, comme un foulard blanche laine. L'amour s'enroule et puis se noue. Amour, amour, m'a rendu fou. L'amour fait souvent grand tapage. Au plus bel âge, il crie, il déchire et il ment. Pauvre serment, il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour, n'est pas bien sage. Quand il a vécu trop longtemps, le cœur content, l'amour à la moindre anicroche s'effiloche, au clou du souvenir s'accroche. L'amour se meurt avec le temps. Amour, amour, je t'aime tant. Amour, amour, je t'aime tant.
Et ça donne envie de se marrer.
Et ouais.
Surprise.
Mais nous aussi, on est plein d'amour. Plein d'amour pour vous, pour nous, pour toi, pour lui, pour vous, pour tous. Après tout cet amour, du vide. Désolée. Le vide, c'est un instant chaque matin, lorsque les yeux s'ouvrent, voire juste avant. À l'émergence, au sortir du sommeil, l'esprit se reconstitue. De quoi suis-je faite ? Mon histoire défile brièvement, parents, enfance, ville où je suis, un lit, le mien, un autre. On revient à l'amour. Ai-je ou non un impératif nécessitant que j'accélère ma sortie du vide ? Ce vide, tel un flottement entre des états. La matière des possibles.
Pam, 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 pam.
C'est,
pam, 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 pam. C'est
la description
d'une image, toujours issue de la revue Bâtard. Une pin-up baigneuse, maillot une pièce, bonnet jaune, me regarde. Jambes coupées, retournées, rafistolées, avec des bouts de métal à trous. On dirait des tentacules. C'est un collage. Derrière elle, une plage lunaire. Je veux dire qu'il y a vraiment la lune à sa droite, à elle, et une vue terrestre à ses pieds. Au-dessus, ciel à étage, des fragments de bâtiments. Fenêtres allumées, toit cranté. Un autre toit, celui où la fille est assise. Une usine, un lycée. En tout cas, des gens accoudés à une longue balustrade. De dos, de biais, ils discutent, regardent. C'est au premier étage et dessous circulent quelques personnes, moins nombreuses. Une forme géométrique. Jaune, rappel du bonnet. Faite de triangles enchâssés. Un monstre d'origami qui flotte sur la plage terrestre. Ah, une dernière chose. Les chevilles de la fille sont lacées. Un fil jaune aussi. Trois tours. Un, deux...
Dans la rame du métro plein, je me glisse in extremis, entre les gens. Ils sont des masses derrière lesquelles je vois un espace libre pour que je m'y insère. En fluidité, sans bousculer mon corps, se courbe instinctivement, prend la forme de la fente entre les autres. Ondulation,
plis, déploiements, j'arrive debout et reprends l'air qui m'est nécessaire. Espace suffisant, mais bruit, langage, odeur oppressante. Ça sent l'agressif, la densité du cerveau vide est déjà saturée. Je manque de pleurer, de vomir. Cette solitude qui me nourrit est trop loin, la latence, ce temps du choix, mon rythme comprenant le vide.
Allô mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai la cour, oui, tous les jours. Je te ferai l'amour, mon amour, mon amour. C'est compliqué. J'aimerais m'inviter, mais je n'ai pas pris de clé. Je t'ai fait de la peine, donc t'as pas insisté. Ça fait des mois, entre elle et moi. Ouais, je le connais, c'est le code, était compliqué. Je t'avais fait la promesse de ne pas l'oublier. À 36B, c'est pas ça. On le sait, on ne sait plus. Un pied dans l'œuvre, l'autre pied dans l'œuvre. J'essaie de me rappeler de mettre les chiffres dans l'œuvre. Un pied dans l'œuvre, l'autre pied dans l'œuvre. J'essaie de m'en rappeler de mettre les chiffres dans l'œuvre.
Allô mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai la cour, oui, tous les jours. Je te ferai l'amour, mon amour.
Ceux qui sont lèches, ceux qui sont lourds. Peut-on se toucher jusqu'à en devenir sourd? Y'a ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. Et ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui sont sourds. Tu veux mon code, tu veux ma clé. Tu veux mon password, tu veux mon dé. Hey, cœur de pierre, j'ai perdu Louis. Cœur de pierre, j'ai perdu Louis.
Allô mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai la cour, oui, tous les jours. Je te ferai l'amour, mon amour, mon amour. Allô mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai.
D'autres ne tombent sous tes charmes. Laisse-moi rêver que tu pleures pour que jamais personne ne danse sur ton corps. Toi et moi on s'aime. Toi et moi on saigne. Toi et moi on s'aime. Mais toi et moi on s'aime.
Au revoir, pourtant pour de bon. C'est bizarre quand je me penche. Ça coule mieux, c'est étrange.
Allô mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai la cour, oui, tous les jours. Je te ferai l'amour, mon amour, mon amour. Allô mon amour.
Alors voilà, une belle leçon d'amour. Alors, mon amour, t'es allé voir un psy ou bien un avocat? De toute manière, ce que tu n'as pas le droit de faire et ce que tu es frustré de ne pas faire. Droit et frustration, que v'là de bons vieux copains. Entre les aventuriers, les optimistes et ceux qui s'en foutent de tes problèmes. Faut faire le beau pour être intéressant. Mais surtout là, on s'en foutra encore plus de toi, puisqu'on ne regardera que le beau de chez toi. Enfin, il est beaucoup plus agréable pour tout le monde d'être beau lorsqu'on se plaint. Alors ça te transforme une rage de dents ou une chiasse en révolte, en combat intérieur. Ouais, la noblesse de la douleur. Connerie. Et tous les autres n'ont pas le droit d'exister. Ils ferment leur gueule quand ils ont mal. On les traite jamais de héros, jamais. Ils font tout simplement leur boulot et leurs existences sont discrètes. Ne gênent personne. À regarder leur série de merde comme tout le monde. À avoir une vie virtuelle. Des plans cul sur des critères photographiques. Ouais, la vie quoi. Au moins quand on est moche, profondément je veux dire, personne ne doute de ta malveillance. On te laisse tranquille. Ouais, on te laisse tranquille. J'avoue que quand le mec qui te regarde dans le miroir te fait peur, tu te dis que ça fait un moment qu'on contrôle tes perspectives. Ouais, dans un monde où tout est justifiable, l'image de soi est soluble. Tiens, par exemple, ces deux mecs là, l'autre jour, ça fait 10 ans qu'ils bossent dardard chez McDo. L'un est chauve, dégoulinant, une sueur grasse, et l'autre est indescriptible, affreux. Ouais, affreux. Du genre à avoir bouffé un truc pas frais tous les jours depuis un moment. Bref, les deux ils me regardent, et il y en a un qui me demande « Tu trouves pas qu'on a des têtes bizarres ?» J'étais piégé, quoi. Fallait que je leur décrive le parcours de mon regard sur leur faciès de frics. Je me suis mis à leur expliquer que, bon, c'était pas grave, que d'autres sont pires. Mais alors, j'y étais pas du tout. Ils auraient bu quelques shooters de vodka avant de venir au boulot, et comme des petits collégiens qui auraient fait une grosse bêtise, ils pensaient que ça se répercutait sur leur faciès. Seulement leur faciès, tant déjà bien arrangé, on n'y voyait que du feu. Il y en a qu'un, ouais, sur les deux, qui a compris la situation que je décrivais ainsi. Je décrivais à ce point leur nature hideuse et repoussante, comme on perce un bouton de pus au soleil levant. D'un air déçu, il a seulement rien dit. Il a rien dit. Protégeant l'autre de ce constat accablant. Apparemment, il le savait bien qu'il était une créature de l'ombre. Et il aurait beau faire tout ce qu'il pouvait pour se rendre intéressant, personne n'irait plus loin que le bout de son visage. C'est son image qui s'est perdue, voilà. Lui, pourtant, subsiste.
Bah et vous, vous êtes nombreux, hein. Vous êtes terriblement nombreux. Et moi, Ahmed, je ne suis qu'un. Je pourrais imaginer que je suis l'aigle solitaire au-dessus d'un troupeau de moutons. Voyez Ahmed qui plane et surveille de son œil d'or le plus gras d'entre vous. Je vais foncer. L'un va foncer son bec d'en avant sur de nombreux gras souillés. Bah, ça ne va pas, mais mes ailes de géant m'empêchent de manger. Si je mange quelques uns gras souillés de nombreux que vous êtes, je ne ferai que de la viande et de la plume et du bec pour l'un que je suis. Toujours un, toujours seul, un parmi les nombreux survivants. Pauvre aigle, Ahmed, ici juché seul, et vous mangez ou pas, toujours nombreux. Quel malheur d'être toujours un dans le dédale de multiples nombreux. Je suis un, malheur définitif, mais je suis un quoi ? Un Ahmed, Ahmed ce n'est qu'un nom, un nom que plusieurs ont aussi. Nombreux sont les Ahmed et moustaches, l'affreux moustache, dit souvent sur la plage en béton armé de Sarge les Corneilles, que des Ahmed il y en a trop en France. Et s'il y en a trop, ils sont nombreux et pas un. Moi Ahmed, je suis nombreux dans mon nom et pas un. Juché ici, c'est le vol de nombreux aigles Ahmed au-dessus de nombreux moutons grassouillés. Pas de repas solitaire, un festin, un banquet. Hourra pour les nombreux sous le nom de chacun. Aïe, chacun, chaque un de chaque Ahmed sous le nom Ahmed de plusieurs éteints. Nombreux sont les chacuns, mais chacun est un. Mais un quoi si le nom Ahmed ne fait pas l'un, puisqu'il est le nom de plusieurs, et même de nombreux chacun. Examinons la chose, examinons l'un. Je m'examine, c'est l'examen, les examens de l'un, l'examen un. Examinez-vous aussi, bande de nombreux uns. Vous n'êtes que des chacun. Mais sans blague, on se croit nombreux et on n'est qu'un tas d'uns. Un ramassis de chaque un. À l'examen, un petit nombreux. L'un Ahmed a du nez. Ça, c'est hors de doute. Est-ce que je suis un nez? Ahmed nez. Pif Ahmed. Examinez vos nez, s'il vous plaît. C'est l'examiner. Que voulez-vous par l'examen scientifique du nez? Parfaitement. Le nez a deux trous de nez et non pas un. Le nez est deux et non pas un. Est-ce que je suis deux trous, à mettre deux trous, à mettre des nez, à mener les deux du nez, s'il vous plaît? Un tout petit nombreux, le deux, le plus petit de nombreux, me sort de l'un, il m'enfle la narine. Deux, franchement, c'est pas si nombreux, c'est deux fois un, deux. C'est à peine plus qu'un, c'est presque un. Si vous étiez deux, est-ce que je dirais que vous êtes nombreux? Le coup de la narine n'est pas si fort, elle me désenfle les narines. Mais à l'intérieur de chaque narine, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, c'est bientôt la fin de notre émission.
C'est le moment de se quitter. Un petit rappel de ce que vous avez pu entendre pendant cette émission. Donc les textes de Julie et Greg sur... Julie, c'était...
Sur le vide, question que je travaille actuellement parce que j'en ai envie d'abord. Et en fait, on a une conception du vide qui, dans notre culture européenne, va être celle de l'absence du vide un peu peut-être négatif, et qui a plein d'autres visions, notamment orientales, autour du vide, de cet entre-deux, d'autres mots en art qui peuvent être appelés comme l'inframince, des choses un petit peu ténues. Et je la cherche autant dans les textes que dans le dessin, que bien sûr je pourrais vous montrer à la prochaine émission radio.
Vous avez pu entendre donc les textes de Mathieu Biello, de Laurence Langlois, de Sylvain Hintman, Julien Pacquemin pour la revue Bâtard, donc numéro 4, sur le thème du compromis, avec une image donc décrite, image d'Anaïs Sala.
Et moi, je vous ai lu quelques textes liés au travail et aux troubles alimentaires, voilà, que j'ai écrits il y a quelques années déjà.
Et moi, donc, j'ai lu trois pièces de Alain Badiou, donc la poésie, le multiple et le grand et petit, que j'ai fait avec Greg. Donc Alain Badiou est un philosophe, romancier et dramaturge français d'inspiration marxiste, né en 37 à Rabat. Voilà, il est également connu politiquement pour son engagement maoïste et ainsi que pour la défense des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Outre son activité de philosophe, Badiou a travaillé avec des metteurs en scène comme Antoine Vitez ou Christian Scarietti, l'actuel directeur du TNP de Villeurbanne, juste là. Et sinon, vous avez aussi entendu...
Pardon, des morceaux de musique qu'on a passé où tout tu voulais fait. Reparler oui. d'un autre texte. Non, oui, il restait ça. Un truc.
Non, c'était la musique.
Oui, et bah, moins de musique que les autres émissions. Jacques Dutronc, L'Idole et Le Code de Miss Sizer. Donc voilà. Et puis d'autres compos qui ont plus été celles
mais de Delphine. Composition, ouais. Amour, amour, une recomposition. Que j'ai faite d'après un texte de Michel Legrand, musicien, compositeur, chanteur et arrangeur français, qui, avec l'émergence de la nouvelle vague, a travaillé avec Agnès Varda, Jacques Demy, bien sûr, et donc c'était une réinterprétation de Amour, Amour. Et sinon, vous avez aussi entendu une composition de Anita et moi-même, la chanson Doudou ou pas, voilà, avec Anita au synthétiseur, et moi la chanson et l'écriture, et c'était assez chouette. Petite chanson composée dans une tour croix-roussienne qui a changé de code et qui se retrouve avec un interphone qui marche pas.
Et bientôt le synthé, même le studio. On est en train d'avoir un projet secret avec Delphine pour faire de la musique en live. Ouais. Exactement. Et ben, on vous dit à très bientôt, pas lundi prochain,
dans 15 jours.
Mais l'autre,
dans
comme d'hab. Jours, ouais. 18-19, notre créneau pour Comment faut-il que je vous le dise. Et on vous laisse sans musique avec un petit vinyle qui va permettre d'expier toutes ces réflexions avec ce titre d'User, Respire, chez Bombad Records.
<t'-> de temps en temps.